Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lissette. Musique et colonialité. Samba et résistance décoloniale afro-brésilienne. Rodney William, sociologue brésilien.
Quand je parle de la question de la résistance, je parle de la préservation de certains éléments culturels qui sont fondamentaux pour la persistance de la mémoire de ces peuples, de l'éthos de ces peuples. Et là, je fais référence à la capoeira, au candomblé, à la samba. Car la samba, le candomblé et la capoeira ont des éléments très importants qui sont connectés. Par exemple, toute culture d'origine noire est d'une certaine manière une culture circulaire. Même si nous pensons au marché financier, à la façon dont l'économie s'organisait dans ces sociétés, vous avez la question de la circularité. Tout a besoin de circuler, loin de la logique capitaliste de l'accumulation. Les biens et le capital ont besoin de circuler pour que la richesse se régénère. Cette question de la circularité fait également partie de l'organisation de ces territoires de résistance, comme dans les rondes, les cercles de la culture à travers lesquels la tradition Yoruba, par exemple, a été transmise. Les rondes de capoeira, de candomblé et de samba sont les symboles de ces territoires de résistance.
Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, e impuser outra cultura, e você nem percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuser outra cultura, e você não percebeu.
Bienvenue à un nouvel épisode de Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, du point de vue des dominés. Aujourd'hui, je vous présente le premier volet d'une série consacrée au rapport entre la musique et la colonialité, à travers l'exemple de la samba, de la cumbia péruvienne et du reggaeton. Dans cette série, nous allons parler de colonialité du savoir, c'est-à-dire du processus de subalternisation, de folklorisation et d'invisibilisation des savoirs non occidentaux. Ce phénomène apparaît, par exemple, dans l'expression « musique folklorique » par opposition à « musique classique ». La colonialité du savoir a instauré l'eurocentrisme comme perspective unique de connaissance. Tout ce qui vient de l'Occident serait la seule norme à suivre. En même temps, La colonialité a complètement infériorisé la production intellectuelle des peuples non occidentaux et des communautés occidentales qui s'opposent à cette norme. La colonialité du savoir nie et efface la connaissance et la capacité intellectuelle des non-occidentaux. Le savoir, le vrai, ne pourrait venir que de l'Occident. Cette colonialité du savoir se manifeste dans différents domaines de la culture, comme les sciences, mais aussi dans l'art. Il faut rappeler que cette notion d'art est purement eurocentrée. En effet, les peuples non occidentaux ne séparent pas l'art du reste de la vie de la communauté. La musique et le chant sont ainsi intégrés dans la spiritualité, dans les rites, les rituels et autres cérémonies communautaires. La notion d'art n'a ainsi aucune signification chez les non occidentaux, comme on peut le voir à travers le cas des origines de la samba de Rio de Janeiro. La domination coloniale, qu'elle se soit faite durant la période coloniale proprement dite ou après les décolonisations, surveille de près les savoirs et les connaissances des subalternes. Ceux-ci sont fortement encadrés et contrôlés par les dominants, car ils sont des formes de résistance. L'exemple de la samba brésilienne nous montre qu'à l'origine, elle était intégrée dans une culture afro-carioca. Au cours du XXe siècle, les secteurs dominants du Brésil l'ont détaché de sa matrice culturelle et se sont appropriés le genre musical pour s'en bénéficier, notamment à travers le business du carnaval de Rio. C'est ce processus que décrit bien la chanson du compositeur afro-brésilien Nelson Sargento, « Samba agoniza, mas não morre », « La samba agonise, mais ne meurt pas », qui date de 1979. Cette composition musicale raconte la persécution des premières années de la samba et l'imposition de la culture capitaliste occidentale à ce genre musical. Elle porte néanmoins une note d'espoir en rappelant qu'il y aura toujours quelqu'un pour la secourir.
Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu.
Dans cet épisode, je vous invite à quitter le regard exotisant sur la samba et à l'envisager sous le prisme décolonial, loin des clichés et des représentations dépolitisées. La samba est un genre musical né dans les communautés afro-brésiliennes de Rio de Janeiro à la fin du XIXe siècle. Elle tire ses racines dans l'expression culturelle des afro-brésiliennes et afro-brésiliens forgés depuis la fin de la période esclavagiste. C'est un genre musical subalterne, des Noirs de la capitale de l'époque, Rio de Janeiro, qui va par la suite être récupéré par les classes supérieures et l'industrie musicale brésilienne. Le Brésil est une colonie portugaise entre 1500 et 1822. Durant cette période, le Portugal est le pays qui se spécialise dans la traite dite négrière. Les historiens estiment qu'entre 9,5 millions et 15 millions de personnes ont été déportées d'Afrique et envoyées dans les Amériques entre le début du XVIe siècle et la fin de la première moitié du XIXe. Le Brésil aurait reçu entre 3,5 et 4 millions de personnes esclavisées, soit le plus grand nombre de déportés africains de toutes les Amériques. Le Portugal est devenu une puissance mondiale grâce à l'économie de plantation et au travail des Africaines et Africains esclavisés. Toute l'économie brésilienne s'appuyait sur le régime esclavagiste. Cela explique que le Brésil ait été le dernier pays des Amériques à abolir l'esclavage en 1888. Au tournant des 19e et 20e siècles, Rio de Janeiro change de physionomie. La ville se transforme par la réforme Pereira Passos, du nom d'un préfet admirateur du français le baron Haussmann, qui a transformé Paris au XIXe siècle. Pereira Passos promulgue des lois qui font de Rio une ville en chantier dite de modernisation, ce qui a pour effet de chasser les populations noires et appauvries vers la périphérie. D'autre part, comme d'autres pays de la région, le Brésil fait appel à l'immigration européenne pour blanchir sa population. Il offre des conditions avantageuses à ces migrantes et migrants qui arrivent en grand nombre. Une autre migration, qui n'est pas du tout soutenue par le pouvoir, est celle consécutive à l'abolition de l'esclavage. Des milliers de Brésiliennes et Brésiliens, originaires du Nord-Est, et particulièrement de Bahia, arrivent à Rio. Ainsi, entre 1872 et 1890, la population de la ville double, passant de 274 000 à 500 000 habitants. Au début du XXe siècle, des réformes urbaines poussent les populations afro-brésiliennes vers les morros, les collines de la ville où vont s'implanter les favelas.
Samba, inocente pé no chão, a fidalguia do salão. Abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura.
La population afro-brésilienne de Rio provient essentiellement de la région de Bahia. Beaucoup s'installent près du port, dans une zone appelée par le chanteur Heitor dos Prazeres la Pequena África, la Petite Afrique. Dans ces quartiers prend naissance une culture noire carioca, très marquée par la spiritualité du candomblé, qui mêle des expressions religieuses africaines sous un couvert catholique. Les femmes noires de Bahia, les tias baianas, commencent à développer le candomblé dans leurs maisons ou dans des sortes de temples appelés terreiros. Par ailleurs, elles se consacrent à diverses activités communautaires. Elles font des repas et organisent des fêtes ou pagodes où l'on joue de la samba. Comme le dit le chercheur Luis Antonio Simas, à travers ces lieux de sociabilité, elles créent des espaces de production culturelle et de protection physique des hommes. Par exemple, lors des fêtes, elles abritent sambistas et capoeiristas qui s'installent au fond des cours. L'une de ces tatas baianas est Hilaria Batista de Almeida, connue sous le nom de Tia Ciata. Elle est considérée comme l'une des mères de la samba carioca. Originaire de Santo Amaro de Bahia, elle est initiée au candomblé à Salvador et devient prêtresse, mãe pequena, à Rio de Janeiro, où elle s'installe à l'âge de 22 ans. Elle est aussi une grande guérisseuse, ayant même contribué à la guérison du président de la République de l'époque, Venceslau Brás. Mariée à un fonctionnaire et mère de 14 enfants, Ciata doit subvenir aux besoins de sa famille. Elle se consacre donc à la vente ambulante de gâteaux, de gourmandises et de noix de coco. Elle fait partie du mouvement des tantes baianaises, reconnaissables à leurs turbans sur la tête et aux robes blanches, amples et volumineuses. À Rio, elle devient une figure centrale de la promotion de la culture afro-brésilienne. Les premiers sambistas, c'est-à-dire chanteurs et compositeurs de samba, se réunissent dans sa maison. C'est là où est enregistré le premier titre de samba sur un disque. Écoutons ce morceau, intitulé Pelo Telefone. La chanson est composée dans la cour de la maison de Tia Ciata. Il s'agit d'une création collective avec la participation de plusieurs figures de la samba et elle est signée par Donga en collaboration avec Mauro de Almeida. Dès la première strophe, il est question de la police, ce qui lui vaudra d'être censuré, comme beaucoup d'autres titres de samba de l'époque.
Pelo telefone, manda me avisar. com alegria, não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz voltar, senhor.
La samba de cette période est un genre musical joué avec des instruments fabriqués de façon artisanale. Ils étaient presque tous des instruments de percussion faits à partir d'objets du quotidien. La samba se développe dans des célébrations spirituelles et festives de la communauté afro de Rio. Les rites et les cultes du candomblé laissent ensuite la place à la samba de roda. Les percussionnistes s'installent en cercle. Ils chantent et jouent de la samba, tandis qu'au centre, des afro-brésiliennes et afro-brésiliens dansent sur ces rythmes. La roda de samba laissait ensuite la place à la capoeira, qui était bien plus qu'un jeu de sport. Elle s'apparentait à un entraînement d'autodéfense, souvent très violent. La samba s'intègre donc dans cette nouvelle culture afro-carioca. Les chansons évoque ce monde des marges, de la difficulté, de l'exil, de la migration, de la persécution, mais aussi de l'espoir et de la solidarité. En ce sens, il s'agit d'une musique de résistance. C'est la raison pour laquelle les dominants s'en méfient. Toute la culture afro-carioca est criminalisée, et avec elle, la samba. La police réprime les capoeiristas et surveille de près toutes les formes d'expression culturelle afro. La samba est taxée de musique dégénérée alors que le candomblé est associé à la magie et à la superstition par les classes supérieures de la société. La culture carioca dont est issue la samba est donc perçue comme dangereuse par le pouvoir blanc qui la réprime avec violence. Écoutons le titre « Delegado Chico Palha » de Chio Elio et Newton Campolino, composé en 1938 et interprété ici par Quinteto en Branco e Preto. Cette samba évoque la persécution policière dont les afro-cariocas étaient la cible. Il est question de l'officier Chico Palha, qui n'avait ni âme ni cœur, qui n'aimait ni la samba ni ses percussions. Dans sa juridiction, nous dit la chanson, il n'arrêtait pas les sambistes, il les frappait. Il était un homme très fort et à l'humeur violente, qui finissait toutes les fêtes à coups de bâton, en cassant tous les instruments. Mais la chanson tente aussi une revanche sur cette violence, car la samba se termine avec l'évocation de l'expulsion de l'officier de la police et sa fin dans la pauvreté en faisant l'aumône.
Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Delegado Chico Palha, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia.
Forte como um gênio violento, acabava a festa pau e ainda quebrava os instrumentos.
Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia.
Ainsi, à ses débuts, la samba se constitue en activité des marges, associée au lieu où se réfugiaient les exclus, dont certains étaient recherchés par la police, comme dans le cas de Bayaku et de Brancura. Dans son roman « Depuis que la samba est samba », publié en 2012, Paulo Lins illustre l'arrestation de Brancura. Il entra dans un bar et demanda une bière. Il était déjà dans la mauvaise vie. Une bière de plus n'allait pas empirer son cas. Dès qu'il remplit son verre, une voiture de police s'arrêta et un policier qui l'avait déjà arrêté plusieurs fois l'aborda. « Bon, aujourd'hui c'est samedi. Je ne peux pas t'accuser de vagabondage, mais comme je sais que tu es un vagabond habituel, incorrigible, brigand, voleur, macumbeiro, lusambiste, je vais te fouiller. » « Monsieur l'agent, j'ai travaillé toute la nuit. Je prends cette bière parce que je me suis disputée avec ma femme. Sinon, je serais en train de dormir chez moi. »« Seulement si tu es dans la zone où tu travailles. Tu es un vagabond. »« Monsieur l'agent, voulez-vous voir mes papiers? Je vais vous prouver ce que je dis. » Le policier examine les papiers de Brancura. Il ne le crut pas et dit qu'ils étaient faux. « Je vais vous dire, et que Dieu me punisse si je mens. » J'ai fait plusieurs fois de la prison pour des affaires de samba, de proxénétisme, de vagabondage, mais j'ai arrêté. Je me suis mariée et j'ai trouvé un emploi et je ne suis ici que parce que je me suis disputée avec ma femme. Mais je vais vous poser une question, monsieur l'agent. Depuis combien de temps vous ne me voyez plus dans le secteur? Depuis combien de temps vous ne me voyez plus dans la rue? Vous pouvez m'arrêter pour flagrant délit, mais ça ne sera que pour la musique ou la religion, car le reste j'ai arrêté. Et mes papiers ne sont pas faux, non? Vous pouvez téléphoner pour en avoir le cœur net. » Le policier crut dans les paroles de Brancura et lui dit que s'il restait dans le secteur, il l'arrêterait pour vagabondage. La répression que subissent les Afro-Cariocas ne parvient pas à étouffer leur productivité culturelle, bien au contraire. Mais à partir des années 1930, commence un phénomène de décriminalisation de la samba. D'un côté, certains sambistas y voient un moyen de légitimer cette musique et d'en faire un genre musical à part entière. De l'autre, on assiste à un phénomène d'appropriation culturelle de la samba par les classes moyennes et supérieures de Rio. La samba tisse ainsi des liens avec le carnaval. Les promoteurs du carnaval se procurent à peu de frais des musiques utilisées dans les parades. La conséquence de tout cela est l'institutionnalisation de la samba. Le premier défilé avec concours d'école de samba se déroule à Praza 11, en 1932. Il est autorisé par le préfet de Rio de Janeiro. Trois ans plus tard, en 1935, les écoles de samba sont institutionnalisées par l'État de Rio de Janeiro. Sous la dictature de Getúlio Vargas, durant l'Estado Novo, entre 1937 et 1945, l'État se met à contrôler de manière directe et verticale l'organisation de la samba et du carnaval. Il édicte une norme qui contraint la samba à la composition historique. Les paroles ne doivent plus être improvisées, mais préalablement enregistrées de manière intégrale. Les seuls instruments acceptés sont les percussions, ce qui exclut l'utilisation du violon. Les sujets doivent être relatifs au récit national, avec l'interdiction expresse de critiquer l'État ou sa politique. Durant cette période, l'État s'approprie la samba en faisant d'elle un symbole de la culture nationale brésilienne. Cela passe par un processus de blanchiment de ce genre musical. En effaçant le caractère marginal et interlope de la samba, l'état blanchi et lisse, le discours contestataire de ce genre musical. En faisant de la samba un produit du métissage et de la démocratie raciale, elle s'éloigne de ses origines afro-brésiliennes. En 1940, la Journée nationale de la samba est instituée dans plusieurs villes du Brésil, à commencer par le Salvador. Les écoles de samba et le carnaval de Rio sont absorbées par le système capitaliste qui contribue aussi à réprimer tout germe contestataire. À partir des années 1960, les écoles et le carnaval deviennent une activité économique centrale de la ville de Rio. Les hommes d'affaires investissent et s'approprient ces productions culturelles pour leurs propres bénéfices, sans en rétribuer les autorises de ces savoirs. Ainsi, la préfecture de Rio de Janeiro installe des tribunes dans l'avenue Rio Branco et commence à facturer l'entrée pour assister au défilé. Rio devient la ville merveilleuse, a cidade maravilhosa, comme le dit ce titre d'une célèbre chanson de la musique populaire brésilienne. Les formes de la colonialité du savoir qui s'imposent à la samba carioca ne se terminent pas dans les années 1950. Ce genre musical sera contesté également de l'intérieur durant cette décennie. À cette époque, un groupe de jeunes des quartiers résidentiels de Rio de Janeiro décide de transformer, de purifier la samba. Écoutons l'historien de la musique brésilienne, José Santos Tignorão, à propos de la naissance de la bossa nova et de l'élitisme qui lui est associé. Je vis dans la bossa nova un phénomène culturel. Des jeunes des classes moyennes se lèvent culturellement contre un type de culture de la musique populaire présente à cette époque, représentée par les couches les plus basses de la société. Des gens qui étaient liés à la samba, les moros, les classes pauvres. Les jeunes commencent à acheter des LP de musique états-unienne et bien évidemment de jazz. Mais quel type de jazz? Non pas le jazz du noir de la Nouvelle-Orléans, parce que le jazz des États-Unis avait subi un processus d'ascension sociale. Quand le blanc entre dans le jazz, celui-ci va à New York. Le rôle de João Gilberto a été de synthétiser pour le violon un type d'arrangement pour ce genre de chansons sophistiquées qui permettait de superposer la mélodie de la samba sur la musique états-unienne. C'est ça qu'était la bossa nova, un genre élitiste, profondément élitiste. Les premiers temps de la bossa nova en étaient véritablement insupportables. Les musiciens considéraient que hors de la bossa nova, il n'y avait point de salut pour la musique populaire.
Chico Guaia, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. Delegado Chico Guaia, sem alma, sem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição.
La bossa nova surgit au sein de réunions juvéniles dans les quartiers chics de la zona sul de Rio de Janeiro. À Copacabana et Ipanema se réunissent des jeunes pour faire et écouter de la musique. À l'origine, un groupe se forme autour du compositeur Tom Jobim, du chanteur et guitariste João Gilberto et du poète Vinícius de Moraes. Ces musiciens diffèrent complètement des sambistas. Ils sont de jeunes hommes blancs, ils appartiennent aux classes moyennes et supérieures brésiliennes. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, reçu une formation universitaire et artistique occidentale. Leur regard se porte vers l'Europe et surtout les États-Unis. Ils apprécient la musique états-unienne, notamment celle interprétée par les stars de l'époque, Frank Sinatra et Chet Baker. Mais ils sont aussi influencés par les expressions artistiques plus populaires du Brésil comme la samba. Ils les voient cependant comme inférieures et primitives. Pour eux, la samba, en particulier celle des carnavals, est une forme musicale qui abuse des percussions, offre des compositions simples et présente une harmonie répétitive. Ils éprouvent donc du mépris et de la condescendance pour la samba. L'un de ces jeunes musiciens est Antonio Carlos Brasileiros de Almeida Jobim, plus connu sous le nom de Tom Jobim. Il est issu d'une grande famille carioca. Il est le fils d'un écrivain, diplomate, professeur et journaliste de Rio, Jorge de Oliveira Jobim. Il grandit dans le quartier d'Ipanema et apprend à jouer du piano dès l'enfance. Ses influences musicales sont à la fois européennes et brésiliennes. Parmi les premières figurent les compositeurs Claude Debussy et Maurice Ravel. En ce qui concerne les secondes, elles sont variées et vont du compositeur Heitor Villa-Lobos au chanteur populaire Pixinguinha. Sa rencontre avec le poète Vinícius de Moraes est déterminante dans la création de la bossa nova. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes est également né à Rio de Janeiro. Il est le fils d'un fonctionnaire de la préfecture qui est, comme la mère de Vinícius de Moraes, un artiste amateur. Après avoir étudié chez les jésuites, il fait des études de droit à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Dans les années 1950, Vinícius de Moraes exerce tour à tour comme journaliste, diplomate et écrivain. En 1954, il publie une pièce de théâtre, Orfeu da Conceição. Deux ans plus tard, on lui propose de faire appel à Tom Jobim pour les arrangements musicaux de la pièce. Celle-ci est adaptée au cinéma sous le nom de Orfeo Negro et elle est dirigée par Marcel Camus. Tom Jobim et Luis Bonfa se chargent de la musique du film qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger ainsi que la Palme d'Or à Cannes. C'est dans ce contexte que ces hommes se donnent pour mission de moderniser la samba, de l'épurer et de la rendre plus audible pour un public occidental. Le critique musical Gene Lees cite une déclaration de Tom Jobim sur les liens entre la samba et la bossa nova, qui dit « La samba authentique noire du Brésil est très primitive. Ils utilisent environ 10 instruments à percussion, 4 ou 5 chanteurs. Ils braillent, la musique est trop effusive, même si elle est merveilleuse aussi, certes. La bossa nova, en revanche, est légère et en retenue. Elle raconte une histoire en essayant d'être simple, grave et lyrique. João Gilberto et moi, nous sentions que la musique brésilienne était exagérée comme une tempête en pleine mer et nous voulions la rendre plus calme, plus propice à l'enregistrement en studio. Disons-le ainsi, la bossa nova, c'est une samba propre, lavée, mais qui n'a pas perdu son âme. Nous ne voulions pas perdre de caractéristiques importantes. Tout l'enjeu, c'était de composer sans perdre le swing. Écoutons Chega de Saudade, composé par Tom Jobim et Vinícius de Moraes, interprété par Elisete Cardoso en 1958, puis par João Gilberto, et qui marque la naissance officielle de la bossa nova. Dans cette chanson, dont le titre signifie « Assez de mélancolie », on voit surgir le thème de la saudade, la mélancolie, que la bossa nova se chargera d'instituer comme un élément constitutif de l'âme brésilienne. Moraes et Jobim chantent ici l'amour, la mélancolie, la solitude. Le rythme est totalement en rupture avec la samba. Les percussions ont déjà disparu et le violon et le piano entrent en scène.
Oh, sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
La bossa nova prend son essor dans les années 1960-1970 avec le soutien de l'industrie musicale brésilienne et états-unienne. D'autres compositeurs tels que Baden-Powell, Sergio Mendes ou Milton Banana s'intègrent dans cette mouvance artistique. Les liens avec le jazz états-unien se renforcent durant cette période, ce qui permet l'internationalisation de la bossa nova brésilienne. Ainsi, en 1962, deux musiciens états-uniens, le saxophoniste Stan Getz et le guitariste Charlie Bird, lancent le LP intitulé Jazz Samba, qui introduit la bossa nova dans le pays du Nord. La même année, Tom Jobim et João Gilberto se produisent au Carnegie Hall, qui est une célèbre salle de concert de New York. Le disque obtient sa consécration en 1965 en recevant le Grammy Award de l'album de l'année. Deux ans plus tard, le titre « The Girl from Ipanema », version en anglais du célèbre morceau « Garota de Ipanema » de Tom Jobim et Vinicius de Moraes, est enregistré par Frank Sinatra. Écoutons « Garota de Ipanema » de Tom Jobim, l'une des plus célèbres chansons de la musique populaire brésilienne.
Sozinho, ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Les trajectoires historiques de la samba et de la bossa nova illustrent donc la colonialité dans les savoirs musicaux et comment la race et la classe jouent un rôle déterminant dans les possibilités d'évolution de chacun de ces deux genres musicaux. La répression vis-à-vis de la samba contraste avec le succès fulgurant de la bossa nova. Comme le dit le chercheur brésilien Rodney William dans son livre « L'appropriation culturelle », je cite « Dans la bossa nova, le talent était incontestable. L'industrie du disque paria sur ce style musical et gagna des montagnes d'argent. La bossa nova serait-elle la nouvelle couleur de la samba? Car tandis que la bossa nova voyageait dans le monde entier, où étaient les sambistes? De la samba à la bossa nova, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la samba a été reléguée et la bossa nova consacrée? Pourquoi les chanteurs et compositeurs de la bossa nova sont-ils devenus richissimes et des sambistes comme Cartola et Nelson Cavaquinho sont-ils morts dans le dénuement? Pourquoi tout ce que le noir produit est-il considéré meilleur lorsqu'un blanc l'exécute? La structure de domination popularise des éléments culturels selon les intérêts du marché ou, dans notre cas, de l'industrie phonographique, en choisissant parmi les personnes blanches celles qu'elles jugent avoir du potentiel pour être des stars. Une tendance qui se reproduit aujourd'hui dans d'autres genres, comme la musique baianaise, le rap et le funk. La samba aurait-elle donc définitivement dépouillée de tout son caractère contestataire et transgressif? La ville de Rio a beaucoup changé. Les moros sont devenus des favelas. Et la samba a pleinement été intégrée au carnaval qui rapporte chaque année plus de 800 millions d'euros. Cependant, comme le dit Nelson Sargento, la samba agonise, mais elle ne meurt pas. Elle garde en elle l'ADN de la résistance et de la contestation, comme on peut le voir dans le cas du bloc Ukomuna Kipario, organisé à partir de 2009 à l'initiative de l'Union de la jeunesse communiste, et qui prend sa forme définitive en 2013. Écoutons-les.
A gente é o rato que roeu a roupa do rei de Roma. Esse tempo é ter o povo no poder. Dá cá o nosso, se não der a gente toma. Ai, 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 ai. Comuna que pariu, de novo na rua. Ó, nós aqui outra vez. Eu vim daqui, eu vim dali. Eu vim de lá, fora Temer e Crivella. Tô na rua pra lutar. Além da também me sumiu o amor. Chegou como na bando de trabalhador. Eu vim daqui, eu vim dali. Eu vim de lá,
vem,
fora
comuna.
Temer e Crivella. Tô na rua pra lutar. Além da também me sumiu o amor. Chegou como na bando de trabalhador. Lá vai em cada isopor.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager, car le savoir est un outil d'émancipation. Vous trouverez toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez me contacter via les pages Facebook, Instagram et Twitter de Notre Histoire. À bientôt.
A comuna que pariu. Revolução e carnaval. É coisa nossa, nossa classe construiu. A maluca me embalou. A maluca me embalou.
Me embalou.
Fala aí, fala aí.
Que pariu. Revolução e carnaval. É coisa nossa, nossa classe.